Dernier volet de la semaine sans tabou. Co-organisée par deux associations étudiantes, les LHD Blocs et les Roadrunners, cette semaine de sensibilisation à la précarité menstruelle a eu lieu du 28 février au 4 mars dernier sur le campus de l'Université d'Artois, à Arras. On vous propose un échange avec Sandrine Granot, qui intervenait lors d'une visioconférence, pour démêler tout ce que vous savez, pensez savoir ou ne savez pas sur le choc toxique.
J'ai 39 ans, je viens vous parler ce soir du choc toxique menstruel. Moi, je viens vous parler de ce sujet-là parce que malheureusement, j'ai été victime de cette maladie avec, pour ma part, des grosses séquelles parce que j'ai dû être amputée des deux jambes et j'ai été amputée d'une partie de mes mains également. Donc, lourdes séquelles pour moi, mais il faut savoir que ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc, je vais un petit peu essayer de démêler tout ce que vous savez, pensez savoir ou ne savez pas sur le sujet. Le choc toxique menstruel, en fait, c'est une infection très virulente. C'est donc lié le plus souvent à un staphylocoque doré. C'est une petite bactérie qu'on peut avoir sur la peau, comme on a tout un tas de bactéries, et qui est présente à peu près dans le vagin de 30% des femmes. Donc, une femme sur trois est porteuse de cette bactérie. Et ça se passe très, très bien. Ça pose pas du tout de problème. Et il s'avère que quelques rares fois, parce que c'est ça aussi qu'il faut quand même retenir pour pas non plus complètement flipper par rapport à cette maladie de façon anormale, quelques rares fois, cette bactérie, elle va se mettre à développer une toxine qui, elle, est dangereuse. Et cette petite toxine, si elle se développe trop, elle va traverser la barrière sanguine. Et là, c'est là où se produit le choc toxique. Donc, il faut savoir aussi que 90% des personnes produisent des anticorps contre cette toxine, donc du coup, ne risquent pas non plus de développer le choc toxique. Malheureusement, on n'a pas de possibilité de savoir si on est porteuse, si on a développé des anticorps ou pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important que tout le monde, femme comme homme, connaissent en fait le fonctionnement de cette maladie et comment essayer de s'en prémunir au maximum. C'est une maladie qui peut être potentiellement mortelle. Il y a 20% de taux de mortalité, donc c'est pas anodin. Ça peut très bien se passer. Vous avez des symptômes, vous voyez votre médecin, cure d'antibiotiques, deux semaines après, tout va bien. Et puis malheureusement, ça peut aller jusqu'au décès parce que cette toxine, en fait, elles viennent attaquer tout notre corps et s'attaquer à tous les organes qui vont un petit peu se mettre en défense. Donc, pour éviter d'être attaqués et derrière de ne plus pouvoir fonctionner correctement, ils s'arrêtent de fonctionner. Alors, c'est un peu illogique, mais c'est ce qui se passe. Et dans ma situation, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que j'ai dû… en fait, quand on a su que je faisais cette maladie-là, on m'a mis dans un coma artificiel pour pouvoir gérer en fait tous mes organes, donc me mettre sous dialyse, m'aider à respirer, aider mon cœur à battre normalement et soulager un petit peu le corps de toutes ces attaques de toxines. Après, il faut savoir aussi que cette maladie, elle n'est pas déclaration obligatoire, ce qui fait que on nous dit aujourd'hui qu'il y a à peu près 20 cas par an en France. Mais en fait, c'est 20 cas qui ont été rapportés par les médecins. Et comme ce n'est pas obligatoire, forcément, il y a tout un tas de cas qui ne sont pas remontés. Le professeur Lina, qui est spécialiste du sujet, lui pense qu'il y a au moins une centaine de cas par an. Donc, on n'est pas du tout sur le même nombre. Et il faut savoir, par exemple, mon cas, moi, en 2019, n'a pas été répertorié. Donc, je n'existe pas et pourtant, c'est bien ce qui m'est arrivé. Et puis, quelques mois après, en fait, j'ai commencé à lire un petit peu, à faire des recherches. Puis, j'ai été contactée par plusieurs journalistes qui avaient entendu parler de mon histoire. Et là, ils me disent, écoutez, il y a un rapport qui vient de sortir. Et là, en fait, je découvre avec stupéfaction que tout ce que je pensais savoir sur le port des protections internes, ben, en fait, je m'étais complètement plantée. Et que tout ce qu'on m'avait recommandé était faux et que tout ce que je pensais faire bien, ben en fait, je le faisais mal. Et peut-être, ça a fait partie des raisons pour lesquelles je suis tombée malade.
Du coup, si une femme sur trois a le staphylocoque. Est-ce qu'il y a une façon de le détecter ou pas?
Alors oui, on pourrait parce que en faisant un prélèvement vaginal, en fait, comme vous faites un frottis, on pourrait, sauf qu'en fait, les bactéries qui sont présentes dans votre vagin, c'est comme celles qu'il y a sur votre peau, dans votre bouche, dans vos oreilles, un peu partout, ça va, ça vient. Donc en fait, et je trouve que la situation actuelle permet de bien comprendre, c'est comme le Covid. Aujourd'hui, vous êtes négatif, demain, vous êtes positif. Donc, du coup, c'est pour ça que dans toute l'info et dans toutes les recommandations qu'on peut donner, c'est partir du principe qu'on peut être porteuse à n'importe quel moment et du coup, il faut essayer de toujours bien faire les choses du mieux qu'on peut pour s'en prémunir et connaître les symptômes aussi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir des hommes aussi avec qui en parler, qui soient sensibilisés à ce sujet parce que c'est aussi leur rôle et ils peuvent être aussi acteurs dans ces moments-là où nous, on se dit « Oh, je suis pas bien, j'ai mal au ventre et puis j'ai de la fièvre et puis j'ai envie de vomir et puis machin. » Dire « Mais t'as pas tes règles et du coup alerter, c'est pas qu'une histoire de nana. Au contraire, donc voilà. Mais non, il n'y a pas… Enfin, on peut le détecter, mais ça n'a aucun intérêt en fait. On passerait notre vie à aller se faire des prélèvements, donc ça serait pas génial. Donc, comment ça se passe un choc toxique menstruel au niveau des symptômes? Parce que c'est là-dessus, je pense que c'est très important. Et en fait, c'est hyper compliqué. Les symptômes, en fait, ils ressemblent grosso modo à des symptômes de grippe, de la fièvre, une baisse de la tension, des douleurs musculaires. Des fois, c'est des maux de gorge, des choses voilà, comme ça. Et ça peut ressembler aussi à des symptômes de grippe, de gastro, des vomissements, des diarrhées. Et puis, alors, après, il y a le gros symptôme qui est l'éruption cutanée, mais qui n'intervient pas forcément très, très tôt. Donc, en fait, et c'est pour ça aussi qu'il y a régulièrement des décès de cette pathologie, c'est qu'on passe complètement à côté. Parce que les médecins n'ont pas forcément encore l'idée de poser la question aux jeunes filles qui arrivent avec de la fièvre ou avec un tableau comme ça de gastro, est-ce que vous avez vos règles? La première des choses à faire, si vous avez vos règles et que vous avez ces symptômes, c'est d'enlever votre protection tout de suite pour un peu limiter les dégâts, déjà dire qu'on n'est plus en contact, parce qu'en fait, c'est votre protection interne, votre tampon, votre coupe menstruelle, qui va entraîner cette multiplication anormale de la bactérie et de la toxine. En fait, ça crée un milieu de culture hyper favorable au développement de la bactérie. Le professeur Lina, donc, qui est quand même un des rares scientifiques à travailler sur le sujet, parce que ça n'intéresse absolument personne, a fait des études hyper poussé. Il a notamment demandé à des jeunes femmes d'envoyer leurs tampons usagés. Il y a eu des collectes de tampons qui ont été faites pour comprendre un petit peu le mécanisme. Et là, en faisant toutes leurs études, ils se sont rendus compte qu'une cup, ça devait se porter au maximum 6 heures par jour, comme les tampons. Et que ça, c'est une info qui a évolué depuis 2 ans. Mais il y a 2 ans, partout, c'était 12 heures. Vous regardiez toutes les notices, tout le monde mettait ça. Et tout le monde faisait croire aux femmes en fait qu'elles ne prenaient aucun risque parce que le vagin c'est pas un endroit stérile, parce que c'est du silicone médical, donc il n'y a pas de produits chimiques, donc il n'y a pas de risque. Quand on parle de choc toxique, c'est parce que c'est une toxine qui vient, qui nous rend malade, mais ça n'a rien à voir avec les produits. Alors soit hein, dans les tampons, il y a plein de trucs un peu pourris qui ne dépassent pas forcément les seuils réglementaires, mais qui ne sont pas spécialement recommandés. Mais ça pourra peut-être entraîner d'autres pathologies, mais pas celle-ci. Donc ça aussi, c'est important de savoir, choc toxique, ce n'est pas lié au produit toxique, c'est lié à une toxine. Donc voilà. Donc, et là, j'ai découvert voilà, cette fameuse histoire du port de 6 heures et pas 12. Et donc moi, du coup, j'ai commencé à faire des recherches pour pousser à lire tous ces rapports scientifiques et effectivement à me rendre compte que voilà, les recommandations en fait ne sont pas celles que les fabricants veulent bien nous faire croire. Donc un tampon, une cup, ça se garde donc 6 heures, comme je disais, ça ne se porte pas la nuit. Un, parce que moi, je n'arrive pas à dormir 6 heures, je dors vachement plus. Donc, forcément, on dépasse. On ne va pas se lever la nuit pour changer notre tampon. Enfin, on est un peu humaine. Hein. Et puis aussi, il y a ce côté alterné, en fait. Je mets une protection interne, je mets une protection externe parce que moi, c'est pareil. Alors ça, c'est une question que j'ai posée au professeur Lina. Il n'a pas su y répondre parce que justement, les recherches, elles ne sont pas assez poussées encore. Moi, je me posais cette question du « mais moi, j'ai des règles qui durent 10-15 jours ». Donc, c'était mon cas à l'époque. Donc, j'ai pendant 10-15 jours, 24 heures sur 24, même si je la rince, ben, je mets quand même tout le temps quelque chose. Et même si je respecte ma notice, est-ce qu'il n'y aurait quand même pas un risque? Et là, effectivement, il y a un peu un vide là-dessus dans la littérature. Ils ne savent pas encore au niveau de leurs expériences scientifiques. Et donc, du coup, c'est pour ça le fait de dire « la nuit, bah, mettez une culotte menstruelle, mettez une serviette hygiénique et comme ça, au moins, ça fait une petite coupure. Il faut faire super gaffe aussi à se laver les mains avant. On peut avoir tendance à se contaminer. Si vous avez des bactéries sur vos mains, vous insérez votre tampon ou votre cup et là, bingo, quoi, en fait. C'est comme ça, entre autres, qu'on peut aussi s'auto-infecter. Donc, toujours bien penser à se laver les mains avant de changer sa protection. Après, ça nous semble un peu plus logique, mais avant, en fait, c'est hyper important. Il faut savoir aussi par rapport aux tampons que si on utilise des tampons qui sont un peu trop absorbants, alors il se passe deux choses. La première chose, c'est que vous allez avoir tendance à la garder plus longtemps parce que bah, ça ne fuit pas, donc on est tranquille. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir la plus petite absorption possible. Et puis, en plus, le fait de mettre une absorption importante, ça va irriter, en fait, le vagin si ça correspond pas à votre flux. Et en fait, le fait de retirer le tampon ou d'en remettre un, ça peut créer des micro-traumatismes, en fait, sur la paroi vaginale. Et ces micro-traumatismes, ils peuvent aussi majorer le risque de passage des toxines dans le sang. Et pour les cups, comme du coup, c'est pas à usage unique, c'est quand même quelque chose qui se réutilise, les recommandations qui sont faites actuellement sur les notices encore, c'est vous la stérilisez juste avant vos règles et puis vous la gardez pendant toute votre période de règles et vous la restérilisez à la fin. Et finalement, c'est pas recommandé parce que, en fait, si vous êtes porteuse de la bactérie, le fait juste de laver votre cup à l'eau et au savon, et encore, il y en a qui disent, en fait, vous essuyez juste avec un papier, vous pouvez la remettre, ça ne pose pas de problème. Mais du coup, en fait, tout le biofilm qui est sur la cup, toutes les bactéries qui restent encore présentes, elles ne sont pas complètement éliminées. Donc, du coup, l'idéal, c'est d'avoir deux cups et de toujours en avoir une stérile avant de… Voilà, quand vous voulez vous changer, au moins, vous êtes sûr d'avoir un objet qui est propre, stérile et normalement… Voilà, du coup, ça diminue les risques. Dans les recommandations que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est quand on est victime d'un choc toxique un jour dans sa vie, même si voilà, ça n'a pas été grave et bien pris en charge, il ne faut surtout pas réutiliser de protection interne parce que du coup, ça veut dire que vous êtes susceptible d'en refaire un. Moi, j'ai fait 3 semaines de réanimation avec un diagnostic très carré, hein, il n'y a pas eu de doute sur ce que j'avais. Et on ne m'a pas dit, attention, remettez pas de cup ou remettez pas de tampon. Donc, voilà, il faut quand même être honnête où actuellement, il y a une méconnaissance aussi de la part du corps médical. Alors moi, je peux en parler en plus de façon très honnête. Moi, je suis une ancienne infirmière. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans. Je ne connaissais pas plus que ça cette maladie. Je ne savais pas comment m'en prémunir. J'aurais été incapable de donner le moindre conseil à une patiente. Il faut juste savoir, voilà, faire attention et voilà. Et là-dessus, c'est vrai, en tant que femme, on a le droit de choisir, mais on a le droit aussi d'être informée. Et c'est ça qui est super important. Quand on fait ce genre de maladie, la première chose qui tombe, c'est « ouais, mais en même temps, c'est un défaut d'hygiène, donc c'est une nana qui est crade, quoi. » Et moi, ça a été très violent parce que mon histoire, elle a été relativement médiatisée. Et je m'en suis pris de partout en me disant, bah ouais, mais forcément, Il y a que les crassous qui font cette maladie. C'est, il y a mais combien de jours elle a gardé son truc. Hein. Cette maladie, c'est pas une maladie des milieux précaires, justement, comme on pourrait aussi le croire. La moyenne d'âge, elle est autour de 19 ans. C'est quand même super jeune. Et après, souvent, les milieux plus touchés, ben, c'est pas forcément ce qu'on croit, et c'est plutôt des femmes très actives, des militaires, des femmes du milieu médical, des gens qui n'ont pas le temps en fait de s'arrêter pour dire ah tiens, faut que j'aille aux toilettes là maintenant. Et c'est vrai que voilà, on a vite tendance à se dire c'est voilà, c'est le genre de maladie qui arrive dans des milieux très précaires avec des gens qui n'ont pas une bonne hygiène. Non non, ça touche surtout les milieux plus aisés. Et au début, ça m'a beaucoup blessée, qu'à un moment, je me suis rendu compte que c'est pas à nous, en tant que femmes, de culpabiliser d'avoir cette maladie. Ceux qui doivent culpabiliser aujourd'hui, c'est les fabricants qui ne sont pas honnêtes et qui nous vendent du rêve, qui nous font croire que avoir ses règles, c'est super cool. Bon, bah, non, c'est un fait, c'est pas cool d'avoir ses règles. Alors, quand on voit les pubs à la télé, enfin, je trouve ça dingue, quoi. Ah, c'est génial. Je suis tellement pressée d'avoir mes règles. Non, pas du tout. Et en fait, voilà, on vous fait croire que ça va être que vous utilisez un produit qui est safe, que vous utilisez un produit qui est bon pour vous, presque, parce que c'est ça, en fait, vous vous mettez complètement à l'abri. Moi, je milite aussi pour qu'il y ait davantage d'informations, pour qu'il y ait des notices qui soient plus lisibles sur les emballages, parce que ouvrez, messieurs, ouvrez une boîte de tampons et allez savoir où c'est noté qu'il y a un risque de choc toxique et de combien de temps ça se garde et de comment. C'est très drôle. Moi, la première fois que je l'ai fait, je devais avoir 10 ans et j'ai piqué la boîte de tampons de ma mère. J'ai ouvert la notice qui carte routière en fait en 15 langues. Et dans un petit coin, c'est noté « attention ». Mais en fait, on passe complètement à côté. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait un étiquetage, il faut qu'il y ait une information qui soit visible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis d'autant plus ravie aujourd'hui de pouvoir parler à des étudiants parce que je pense qu'il n'y a pas assez de prévention aujourd'hui sur ces soucis-là de la femme. Et donc, c'est très, très important de faire un maximum de prévention sur le sujet parce que, comme je le disais, ça peut tomber sur n'importe qui. Le risque est minime, mais il est toujours là.
C'était un échange avec Sandrine Grano, co-autrice avec Claudine Colosi, d'un livre intitulé « Choc toxique, faut-il avoir peur des protections hygiéniques ?» qui est intervenue durant une semaine de sensibilisation à la précarité menstruelle et qui était co-organisée par deux associations étudiantes, les Roadrunners et les LHD Blocs.